Vous écoutez France Culture.
Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, aujourd'hui plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton se demandera ce qui s'est passé à Dubaï lors de la conférence mondiale sur les télécommunications, la lecture de la semaine. Pourquoi il est si difficile de construire des robots? Le son, l'âme du robot. Quant à nos invités du jour, Sabine Blanc et Ophélia Nour, pour une histoire des hackers de 1959 à aujourd'hui. Les hackers forment aujourd'hui une catégorie assise dans nos imaginaires. Tout le monde ou presque voit ce que c'est qu'un hacker. Une image se forme à l'évocation du mot, image construite en partie par le cinéma, celle du jeune homme derrière son ordinateur qui craque des systèmes informatiques avec plus ou moins de bienveillance. Nous-mêmes, ici à Place de la Toile, on parle assez souvent des hackers. On l'a fait évidemment avec Wikileaks, avec les actions des Anonymous ou même les journalistes hackers de Reflet.info. Et il y a 15 jours encore, au détour du livre de Fred Turner sur le passage de la contre-culture à la cyberculture. Mais pourquoi une émission sur les cultures numériques est-elle amenée à parler aussi souvent de hackers? Est-ce qu'il s'agit là de céder à un folklore technologique ou y a-t-il de meilleures raisons? Alors à cette question, nous n'avons jamais vraiment répondu et en fait, nous allons le faire ce soir avec Sabine Blanc et Ophélia Nour. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Vous êtes toutes les deux journalistes à l'encore pas complètement mort site d'information en ligne ovni.fr. Et vous êtes les auteurs d'un livre, lui, parfaitement vivant, qui est paru il y a quelques semaines, Hacker, bâtisseur depuis 1959, aux éditions donc... je me suis trompé dans le titre, non, Sabine Blanc? Aux éditions, donc, pas complètement mort, ovni, voilà. Donc, comment sera disponible d'ailleurs le livre une fois que...
Très bonne question que j'étais en train de me poser.
Ah ouais, c'est ça, mais... Non, mais
je pense que sur Amazon, oui. Apple, il sera toujours disponible.
Bon, voilà. Tant mieux. J'ai commencé par une question toute bête, mais que je n'ai cessé de me poser pendant toute cette lecture. Pourquoi ça vous intéresse, les hackers, au fond? Vous êtes des jeunes filles, ce sont principalement des hommes, alors peut-être qu'il y a de raison. Pourquoi est-ce que, bon voilà, après, je ne sais pas quelle est votre histoire forcément intime aux questions numériques à toutes les deux, mais pourquoi votre grande œuvre à la fin de votre passage à OVNI, ce sera ça?
En fait, la première fois que j'ai rencontré le milieu hacker, c'était en 2010 au PHSF, qui était le festival du hackerspace parisien, le TMP Lab. J'y suis entrée un peu dans un monde vraiment inconnu et j'en suis ressortie avec le sentiment d'une effervescence politique, justement au bon sens du terme, absolument extraordinaire. C'était waouh!
Qu'est-ce qui vous avait frappé?
La capacité qu'avaient ces gens à réfléchir, à remettre en cause le fonctionnement des choses. Le fameux geste d'ouvrir le capot, voir comment ça marche, voir si on peut faire autre chose. Et c'est vraiment une effervescence comme j'en avais jamais vu avant. Et ça m'a ramené finalement à la politique, au bon sens du terme, alors que j'étais complètement dépolitisée.
Ah oui, ça vous a repolitisé de vous intéresser aux hackers?
Oui, complètement.
Ah oui, les fréquenter. Oui, c'est intéressant ça. Et vous, Ophélia Nour?
La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2009 à Passage en Seine. J'arrivais avec un autre projet geek, un projet de CMS. Et en fait, depuis toujours, je m'étais déjà intéressée à... un autre monde alternatif qui est celui donc des graffeurs et du street art. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était ce côté justement caché dans l'ombre. Et enfin, la grosse différence, en fait, pour moi, entre les graffeurs et les hackers, c'est que les hackers avaient cette possibilité d'agir dans la société. Voilà, c'était politiquement.
C'est-à-dire contrairement aux graffeurs ou...
Oui, contrairement aux graffeurs, aux gens du graffiti qui sont plus soit dans l'ego parce que c'est une espèce de représentation en fait, de leur capacité à graffer toujours plus haut ou à faire les plus belles fresques. Et après, il y a le côté street art, artivisme aussi qui est très intéressant, mais c'est encore autre chose et que je poursuis en parallèle. Mais pour moi, ces deux mondes visuellement aussi sont très intéressants.
Et alors, je vais vous poser une question à laquelle il est impossible de vraiment répondre. À quoi ils ressemblent ces gens? Parce que évidemment, quand je disais on a une image construite des hackers, elle est en grande partie construite par le cinéma. Voilà, qui donne une représentation forcément celle du cinéma, fictionnelle, etc. À quoi ils ressemblent, ces hackers? Alors, vous en donnez quelques idées avec des images que vous avez faites, Ophélia Nour, mais voilà, c'est quoi? C'est qui, ces gens?
Alors, il y a un Finlandais qui avait fait une étude sur la population hacker. Il en ressortait de façon étonnante que 90% étaient des hommes.
Ouais.
qui s'intéressaient quand même beaucoup à la technique. C'était des gens plutôt diplômés. Ce qui explique peut-être aussi la capacité à réfléchir, à se poser des questions. Enfin, non pas que ce soit propre, mais quand on a fait des études, financièrement, c'est quand même plutôt une classe moyenne, classe aisée. Mmh. Ça aide justement, on a du temps, le cerveau disponible justement, peut-être pour réfléchir davantage. Donc très très peu de femmes, même s'il y a quelques figures marquantes comme Jude Milon, qui est la sainte patronne des hackers, qui est morte en 2003. Mmh. Voilà.
Ouais, donc des garçons plutôt assez jeunes, plutôt classe moyenne, travaux intellectuels.
Oui, en sachant encore que c'est une étude qui se base sur les réponses des gens qui se définissent comme des hackers. Donc, sachant qu'il y a des gens qui sont des hackers, qui s'ignorent. Donc c'est parcellaire, évidemment.
Ou alors qui sont des hackers et qui ne le disent pas. Ça existe.
Voilà, qui ne le disent pas, en particulier dans des pays, des dictatures ou des régimes autoritaires. Souvent, en général, on dit qu'on est de l'open source ou du logiciel libre. Et puis quand la dictature tombe, hop, on devient hacker.
Et est-ce que tous sont de formation informaticienne ou est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des trajectoires complètement différentes mais qui ont pratiqué l'informatique en parallèle, de manière intuitive, autodidacte, Ophélie Anour?
Moi, j'ai rencontré pas mal d'administrateurs système. Après, en Espagne, j'avais rencontré une fille, justement, qui avait fondé un festival en Catalogne, un festival de hackers. Et elle n'avait aucune formation, elle avait complètement appris sur le tas en atterrissant dans un hackerspace à Barcelone.
Et alors, vous les avez photographiées beaucoup dans le livre, il y a beaucoup d'illustrations de camps divers, ou même de lieux qui sont des lieux connus, dont on reparlera, le Chaos Computer Club à Berlin, etc. Se laisse photographier facilement, enfin, il n'y a pas de...
Ça dépend. Ouais. Avec eux, il faut quand même faire très attention. C'est des gens qui font très attention à leur vie privée. Donc, quand on arrive dans un hackerspace avec un appareil photo, on le dégaine pas tout de suite. On discute si on peut, on les contacte avant. On va les voir plusieurs fois. On demande aussi si on peut prendre des photos. Mmh. Si quelqu'un ne veut pas être dans la photo, enfin, il faut vraiment dialoguer là-dessus. Avant de pouvoir shooter.
Sabine Blanc.
Oui, après, pour avoir fait quelques reportages pendant des rentrées scolaires.
Oui, c'est pas la même chose avec des enfants.
C'est un peu la même chose. Une mère, quand il s'agit de photographier son enfant, est absolument plus chiante qu'un hacker.
Juste sur la question de la définition, parce qu'évidemment, c'est toujours un problème de définir ce terme de hacker. Et le sous-titre que vous donnez, les bâtisseurs, alors on reviendra précisément sur pourquoi vous les appelez des bâtisseurs, mais c'est d'emblée un contre-pied, quoi. C'est de dire, c'est de positionner le hacker du côté de celui qui bâtit, de pas du côté de celui qui détruit. Sabine Blanc.
C'est pas un contre-pied, c'est juste revenir à ce qu'ils font vraiment, ce qu'ils sont vraiment. Donc c'est un contre-pied, oui, par rapport à l'image médiatique, mais c'est pas notre faute si les médias emploient le terme dans le mauvais sens du terme, justement.
Mais parce que vous trouvez, vous, qu'ils sont maltraités, les hackers, médiatiquement ?
Complètement. Enfin, il suffit de voir des cas du piratage. On parle de piratage, on dit hacker, alors qu'en fait, c'est des crackers. Les gens qui pénètrent des systèmes avec des intentions malveillantes, c'est des crackers, c'est des black hats. Mais le hacker, stricto sensu, c'est quelqu'un qui fait un usage créatif des technologies. Et ça n'a strictement rien à voir. C'est juste le terme qui a mal été compris. Mais...
Ophélie Anour ?
J'ai l'impression que depuis deux ans, il y a un effort qui est fait par les journalistes, par les médias, pour essayer justement de comprendre exactement ce que c'est, ce qu'ils sont.
On ne va pas remonter l'histoire dans sa totalité, parce qu'il y a plein de détours qui sont à chaque fois très, très intéressants, mais qui peuvent être un peu complexes ou des lignes parallèles. Mais simplement, revenons-en juste à la date de départ. Vous dites, voilà, hacker, bâtisseur depuis 1959. Alors évidemment, tout à coup, on se dit, bon, bizarre, quoi. 1959, c'est le proto-informatique. Comment est-ce que le terme de hacker peut-il naître dans un contexte qui est quasiment pré-informatique, en tout cas celle qu'on connaît, quoi, Sabine Blanc?
C'est un point de départ un peu artificiel, puisque certains disent que Socrate était le premier des hackers. Mmh. Et il y a toujours eu des hackers, des gens qui réfléchissent sur le système, qui déconstruisent. Bon, c'est contingent à l'humanité, finalement. Mais on a pris comme départ 1959, parce que c'est la première fois que le terme est apparu dans le dictionnaire du TRMC, qui était le club de modèles réduits du MIT. Et c'est là que, pour la première fois, il est employé dans le sens où on l'entend actuellement.
Et alors, il est employé dans un club de modélisme. Mais alors, on connaît cette histoire globalement. C'est quoi? C'est des types, donc des ingénieurs du MIT qui,
des gamins, ils ont 20 ans, même pas.
Et ce qui leur plaît, c'est le modélisme, quoi. Voilà, donc ils construisent des petits trains électriques. Mais alors, pourquoi est-ce que le mot hacker arrive là-dedans? C'est ça que j'ai jamais compris.
Ça.
Non, mais qu'est-ce qu'ils font pour se dire hacker, c'est-à-dire gens qui hachent, c'est ça?
Oui, qui taillatent, qui mettent en pièces. Donc il y a l'idée de prendre le système, de le mettre en pièces, de le taillader, et hop, d'en reconstruire un autre. C'est pour ça qu'on file aussi la métaphore du Lego, avec les briques qu'on reconstruit comme on veut.
Sans répondre directement à la question, mais au départ, quand on avait pensé au livre, on ne pensait pas du tout lui donner cette forme. C'est vrai qu'on s'est dit, ben voilà, il faut, si on veut parler des hackers, il faut parler aussi de la naissance d'Internet, il faut parler aussi de tout ce qu'il y a avant. Et du coup, Sabine voilà, s'est plongée à fond dans l'histoire des hackers et a décidé de remonter jusqu'au point justement le plus révélateur, en fait, qui est l'histoire du MIT. Ouais.
Après, je me suis aussi calquée sur l'ouvrage de référence de Stephen Levy. Le premier a décrété que c'était en 1959 avec donc ce mot qui apparaît dans le dictionnaire du TRMC. Donc j'ai repris en fait la chronologie de Stephen Levy.
Vous avez respecté l'historiographie légitime, enfin légale sur
c'est quand même un horizon un peu indépassable cet ouvrage. Donc
ces types là, ils sont très jeunes au MIT dans les années à la fin des années 50, ils fabriquent des petits trains électriques, etc. Mais comment ça s'articule à la question informatique? Parce que dès le début, ça s'articule.
Alors en fait, il y avait deux comités dans ce club. Il y avait une section qui s'occupait vraiment des modèles réduits, des petits wagons, des décors, etc. Et il y avait un comité qui s'occupait à proprement parler des circuits. Et à côté, il y avait des ordinateurs. Donc pour améliorer les petits circuits, on s'intéresse aux ordinateurs.
D'accord.
D'où c'est aussi en soi une démarche de hacking, parce que ces ordinateurs, c'est des grands bahuts, n'étaient absolument pas faits pour améliorer les circuits électriques des petits trains.
C'est-à-dire que c'est pour bidouiller leur circuit électrique, ils vont utiliser les ordinateurs qui servent à autre chose, c'est-à-dire à faire des calculs scientifiques très importants, etc.
Voilà.
Comment ça commence à créer une forme de communauté, cet acte-là? C'est ça qui est bizarre. Comment ça se répand?
Mais il y a un petit groupe, en fait, qui se créer, je dirais, c'est vraiment des nerds passionnés. Et voilà, donc eux, leur but, du coup, ça devient d'améliorer les ordinateurs, de développer des programmes pour toujours faire ce qu'ils voulaient. Et petit à petit, il y a l'éthique qui se construit autour. Ils travaillent la nuit aussi beaucoup, donc du coup, je suppose que ça crée des liens. Parce qu'évidemment, en journée, les ordinateurs sont réservés aux choses sérieuses, entre guillemets. Et eux, la nuit, éventuellement, en déverrouillant la porte de façon pas très légale, ils allaient s'occuper sur les ordinateurs.
Et ça, ce qui est assez drôle, c'est que dès ce moment-là, on va retrouver deux choses qui sont très essentielles dans l'histoire des hackers, qui sont, la question de l'éthique, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, mais qu'est-ce qui nous réunit d'un point de vue éthique. Et de l'autre côté, cet aspect qui mêle à la fois l'imaginaire de la nuit, qui reste un truc extrêmement important. Et d'ailleurs, toutes vos photos, Ophélia Nour, une grande partie de vos photos sont des photos nocturnes. Donc il y a cette prolongation-là. Et donc, nuit égale interlope, égale limite de la légalité, égale on crochète une serrure, etc. Bon, ce qui est drôle, c'est que dès le début, on a ces deux éléments-là qui sont essentiels, Ophélia Nour.
Et puis aussi le fait de s'amuser.
Et le fait de s'amuser,
c'est vrai. C'est-à-dire, en général, la plupart des hackers travaillent en journée, tout simplement. Ils ont d'autres postes et ils se réunissent comme on se réunirait en club, je sais pas, pour faire du bingo ou autre chose le soir. C'est le hackerspace en fait. Donc ils se réunissent pour bidouiller ensemble, présenter, comment ils avancent sur un projet, le soumettre à la critique, peut-être l'améliorer, échanger, partager et tout ça. Ils peuvent le faire en général que le soir. Voilà, oui, c'est le moment où ils sont le plus tranquilles pour travailler et
Oui, c'est pas forcément une posture, on va travailler la nuit parce que ça fait mieux. Vraiment, au début, les ordinateurs, c'était des machines très chères, dont l'accès était restreint, donc on pouvait y accéder la nuit. Et donc c'était au MIT, il faut imaginer que les portes n'étaient pas complètement ouvertes. Donc s'il faut crocheter éventuellement la porte, et on y va.
Et alors cette éthique hacker, au début, c'est quoi ces termes fondamentaux? C'est quoi l'éthique hacker?
Je pense que déjà dans l'éthique hacker, il y a l'idée de ne pas se faire d'argent, de bidouiller pour s'amuser, pour créer, pour inventer de nouvelles choses.
Point fondamental, c'est la libre circulation de l'information, ce qu'on appelle maintenant le data love.
L'amour de la donnée.
L'amour de la donnée. Ce qui peut être sujet à caution, d'ailleurs.
Ça, dès le début, la libre circulation d'informations, c'est un truc qui est fondamental
de départ. Et ce qui fait que le logiciel, au début, circule de façon tout à fait libre.
On partage des savoirs.
On met en commun. Il est hors de question de vendre un programme. Enfin, ils n'y pensent même pas, de toute façon, parce qu'il n'y a pas d'économie encore à cette époque. Il y a aussi l'idée intéressante que on peut créer de l'art avec le code.
C'est-à-dire que le code lui-même, oui, ça, est un objet esthétique.
Oui, je crois d'ailleurs qu'il y avait une émission sur la beauté
du code. Sabine Blanc qui connaît toute la liste des émissions sur la toile. Effectivement, la beauté du code.
Voilà. Et pour s'amuser aussi avec les premiers jeux vidéo.
Ah oui, j'ajouterais un point aussi, c'est l'idée que tout le monde peut participer sans distinction de race, de classe sociale. Ça paraît peut-être banal maintenant, mais dans les années 60-70, l'Amérique blanche n'aime pas forcément les Noirs, par exemple. Mmh. Donc c'était vraiment un point très, très fort de cette éthique.
Alors, on va voir comment cette éthique elle va travailler, notamment en vous prenant au mot sur le terme de bâtisseur, et voir ce qu'on utilise aujourd'hui, dans ce qu'on utilise aujourd'hui et ce qu'on connaît des technologies, sont des héritages hackers. Mais en attendant, la chronique de Thibaut Henton, à qui j'ai demandé cette semaine ce qui s'était passé, question compliquée, quels ont été les grands enjeux de la conférence mondiale des télécommunications qui s'est déroulée il y a 15 jours à Dubaï.
Quelles sont les leçons de la Conférence mondiale des télécommunications, acronyme WCIT en anglais, qui s'est tenue il y a 15 jours à Dubaï? Un nouveau traité, acronyme RTI pour Règlement des télécommunications internationales, a été négocié, mais 55 pays, dont la France et les États-Unis, ont refusé de le signer, parce qu'ils considèrent qu'il ouvrirait la voie à une plus grande régulation, et par là il faut entendre censure, par les États. Censure qui, disons-le tout de suite, est déjà effective en Chine, en Russie ou aux Émirats Arabes Unis où se tenait la conférence. Mais censure qu'on a pu voir aussi à l'œuvre aux États-Unis au moment de l'affaire Wikileaks. J'ai accumulé pas mal de matière et pas mal d'acronymes depuis plusieurs semaines sur le sujet. Et je dois dire que je suis submergé. Très difficile d'avoir une vision claire des enjeux. Tout simplement parce qu'ils sont à la fois énormes, ces enjeux. Vaste question que celle de la régulation internationale d'Internet, ce qu'on appelle gouvernance, et de sa neutralité. L'idée, en gros, que le réseau des réseaux doit garantir la libre circulation des données sans discriminer aucun flux. Enjeu à la fois énorme, technique et politique, technologique et juridique, et finalement un peu ridicule. Car l'Union internationale des télécommunications, l'UTI, l'agence des Nations Unies qui organisait la conférence, n'a pas de pouvoir contraignant. N'empêche, les nombreux pays membres et acteurs des télécoms qui étaient rassemblés à Dubaï avaient dans l'idée de mettre à jour un traité qui date de la fin des années 80. Et ce, alors même qu'Internet rassemble une foultitude d'acteurs, plateformes et services, fournisseurs d'accès, infrastructures nationales, terrestres, sous-marines, aériennes, câbles, satellites, data centers, AS, routeurs, serveurs, acteurs qui ne cessent de se poser la question de savoir qui finance quoi. Celui qui émet ou celui qui reçoit. Et ce, alors même qu'Internet s'est depuis l'origine développé loin des réglementations de l'UTI, préférant épouser les règles du marché mondial. Or, ce marché est sous hégémonie américaine, puisque les organismes qui gèrent l'adressage IP et les noms de domaine sont des organismes peut-être ouverts, mais néanmoins américains. On est très bien comme ça, merci, hein. Ne changez rien, annoncez donc... avant le début de la conférence, Google et les États-Unis, mais aussi de nombreuses associations de défense d'un Internet neutre. En substance, à les écouter, permettre à l'UTI d'introduire l'Internet dans son giron, c'était redonner du pouvoir aux États. Or, ni les États-Unis ne le veulent, eux ont ce pouvoir de fait, ni les défenseurs des libertés, eux voient bien ce que ça donne en Chine ou en Russie. Il est cependant bien commode de fustiger l'UTI, se souvenir que cette agence joua un grand rôle dans le passé, pour harmoniser les standards techniques des anciens modes de communication, morse, téléphone, radio notamment. Aujourd'hui encore, et c'est l'une des leçons profondes de Dubaï si je lis bien, elle apparaît comme un relais utile pour porter la voix de pays en développement, soucieux de réduire la fracture numérique. Le truc, c'est que ces pays sont livrés à eux-mêmes pour financer des infrastructures qui serviront ensuite, probablement, à transporter du Google et du Facebook. Pourquoi les grands fournisseurs de contenu ne mettraient-ils pas la main à la pâte eux aussi, après tout? Une autre leçon de Dubaï est qu'au sein de ce cyberespace où les télécoms ont perdu l'initiative, le fonctionnement opaque de l'UTI, le fait que la liste des participants soit privée, tout comme les textes qui sont négociés durant la conférence, ce fonctionnement opaque, donc, ne semble plus viable. Après 2 semaines de conférences acharnées où seuls les plus techniciens et technocrates auront compris quelque chose, nous voilà donc avec un traité révisé où les mots « Internet » et « sécurité » font l'objet d'allusions très très légères, Ces allusions auront tout de même suffi à justifier le refus de 55 pays. La question des règles susceptibles d'encadrer le fonctionnement du réseau des réseaux reste donc entière et cruciale, sans qu'il soit possible de la ramener à l'alternative simpliste, le marché ou la bureaucratie.
Merci Thibaut. Des liens concernant cette conférence de Dubaï sur la page de Place de la Toile, page où vous pouvez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger. Pendant un an, retour studio avec Sabine Blanc et Ophélia Nour, les deux auteurs de l'histoire des hackers bâtisseurs depuis 1959. Et bien justement, ces hackers, qu'est-ce qu'ils ont bâti? Alors, je ne vais pas vous demander une liste, mais peut-être juste de partir de ce que sont les usages les plus communs de ce qu'on a de l'Internet, du web ou de nos outils aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans ces usages, alors à la fois dans les usages, dans les machines, dans même peut-être ce que c'est que l'Internet, etc., qu'est-ce qu'on doit aux hackers, Sabine Blanc?
On doit les ordinateurs personnels, par exemple.
Ah bon?
Oui.
Mais de quelle manière on doit les ordinateurs personnels?
On leur doit, en fait, entre autres grâce au Homebrew Computer Club, où en fait il y avait les passionnés de l'informatique qui essayaient de construire le premier PC en kit. Voilà, ensuite ça s'est démocratisé. On leur doit, pas complètement, mais une bonne partie du fonctionnement de l'Internet à travers les RFC, c'est en fait les standards qui font fonctionner l'Internet. On leur doit...
Non, il faut préciser ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Internet, c'est un réseau de réseaux, et donc ça veut dire que les hackers sont ceux qui ont participé au fait que ces réseaux puissent s'interconnecter les uns aux autres?
Puissent fonctionner correctement, tout à fait. À travers ce qu'on appelle les RFC,
donc les
Requests for Comments. En fait, c'est des standards qui... voilà. Donc, et ce qui est important de noter, c'est que ces standards sont complètement ouverts, vraiment dans l'esprit hacker. Donc, n'importe qui peut en proposer. Bon, après, il faut être techniquement... un petit peu doué, mais l'esprit est complètement ouvert.
Et c'est que aujourd'hui, enfin on sait, on en avait parlé un peu ici, c'est qu'il y a un organisme, l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, qui s'occupe d'établir ces standards et de les valider au niveau mondial, et que le fait même qu'un organisme comme ça existe, qui permet que l'Internet existe, c'est un héritage hacker.
Tout à fait, oui. Dans les années, à partir de 1969, quand l'ancêtre de l'Internet commence à fonctionner, tout au long des années 70, et puis jusqu'à maintenant, les hackers mettre la main à la pâte. Donc on a dit ordinateur personnel, mais aussi, par exemple, de pouvoir avoir un navigateur qui marche correctement au lieu d'Internet Explorer, avec Firefox, voilà, qui a relancé la concurrence.
Alors en quoi est-ce que Firefox, par exemple, c'est un héritage hacker aussi?
En fait, Firefox... en fait, il y a une rivalité entre Internet Explorer et Firefox, enfin, ce qui est devenu Firefox ensuite. Ils ont décidé de libérer le code. Donc, il y a le mouvement du logiciel libre qui avait été lancé dans les années 80. Donc, le code est libéré, ce qui a permis vraiment de lui donner une seconde vie, un dynamisme. Du coup, Microsoft, qui pensait pouvoir continuer d'avancer en mode rouleau compresseur avec Internet Explorer, était obligé de se réveiller. Et donc, c'était une saine émulation.
Ce sont des anciens de Netscape, en fait. C'est vraiment lié à Netscape qui s'est crashé. Et donc, le code a été, je crois, récupéré. Si je me rappelle bien,
et
ouvert. Voilà.
C'est-à-dire que
c'est devenu Mozilla, et la fondation Mozilla a été... Enfin, elle a été créée beaucoup plus tard, mais disons que le projet Firefox, voilà, vient de...
C'est une association.
Vient de Netscape.
C'est-à-dire l'idée de quelque chose qui n'est pas lucratif, qui est fabriqué par des gens qui sont répartis dans le monde entier, dont un code qui est ouvert, qui est constatable par tout le monde, modifiable par tout le monde, avec des processus de
validation.
Améliorable. Donc, ordinateur personnel, ce qui n'est quand même pas rien. Les standards de l'Internet, le navigateur, donc, qui permet... de naviguer sur Internet.
Le Wi-Fi aussi.
Le Wi-Fi.
Aujourd'hui, donc, on peut surfer sur Internet avec donc, le Wi-Fi. On peut créer des réseaux Wi-Fi indépendants. Et donc ça vient aussi des hackers. Quand, en fait, toute l'informatique est devenue abordable, en fait, quand c'était plus des gros ordinateurs ou des gros circuits imprimés, que tout était devenu tout petit, fabriqué à Taïwan, en Chine, et qu'on pouvait se les procurer facilement. Très très vite, ils ont commencé au Danemark et en Allemagne à bidouiller des antennes de relais Wi-Fi et à constituer des réseaux dans des villes ou dans des campagnes, voilà, pour que les gens puissent se relayer les uns aux autres. Et surtout, le principe, c'est d'abord de pouvoir échanger des fichiers et échanger des mails. Donc au début, les antennes Wi-Fi, c'était des espèces de grosses boîtes.
Donc ne plus passer par les câbles, mais passer par les ondes, c'était
tout à fait,
l'idée.
Ouais. Et pouvoir monter un réseau totalement indépendant.
D'accord. Donc le Wi-Fi aujourd'hui, là, voilà, tout le monde est sur Wi-Fi. Et ça c'est dû effectivement au départ à des
zones. Tout à fait.
Dans la volonté de faire quoi? De faire accéder des gens au réseau qui n'ont pas la possibilité.
Par exemple, le principe est simple. Les opérateurs, les gros opérateurs télécoms ne vont pas dans les zones blanches, ce qu'ils appellent les zones blanches, donc difficiles d'accès. Donc ça peut être des zones marécageuses, ça peut être des montagnes. Et on a de bons exemples de ça. Donc, par exemple, en Catalogne, Guifinet, qui est un des plus gros réseaux Wi-Fi au monde, je crois. Ils ont plus de 15 000 nœuds. Et donc, ils ont commencé, en fait, tout petit, à bidouiller ensemble et à créer leur propre système et à relier les gens dans les campagnes, dans les montagnes. Ils ont créé eux-mêmes leur logiciel, etc. Ils ont fait pareil à Berlin. Et ils ont fait pareil au Danemark et dans plein d'autres endroits.
Il y a sans doute d'autres points, mais ce qui est quand même intéressant et en même temps triste dans cette histoire-là, c'est que tout ce qui était au départ des travaux effectués par des gens dans l'esprit que vous aviez indiqué tout à l'heure, à la fois, c'est-à-dire de partage, d'ouverture, de s'amuser, de faire accéder des gens, etc., tout ça devient des trucs ultra commerciaux, ultra centralisés, ultra maîtrisés.
Pas toujours. Firefox est toujours libre d'accès.
Firefox est passé derrière Google, qui les finance aussi ailleurs, mais comme ils ont lancé leur navigateur Chrome, et maintenant Chrome s'envole. Et
Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais Firefox arrive à obtenir de l'argent de Google, mais on a toujours une fondation qui est derrière, la fondation Mozilla.
Oui, non, mais ça existe
quand on regarde aussi...
C'est en baisse,
Oui, c'est en baisse parce qu'il y a une guerre des navigateurs, mais je veux dire, le principe est toujours le même. Ils se battent pour ce qu'ils appellent l'open web, donc un web ouvert, qui ne soit pas un web des applications.
Après, l'histoire n'est pas finie. Là, ils sont en train de travailler sur le développement d'un OS pour mobile parce que les enjeux sont déplacés sur les terminaux mobiles. D'ailleurs, en parlant encore d'une autre invention, Android descend de Unix.
Alors, Android, c'est le système d'exploitation de Google sur le téléphone mobile, voilà. Ouais.
Descend de ce qu'on a appelé le papa des OS Unix, mais aussi macOS et Linux. Donc ça fait quand même une partie non négligeable. Je crois que votre mère n'y échappe pas. Elle a du hacker autour d'elle.
Oui, mais quand même, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire que malgré tout, toutes ces technologies, au bout d'un moment, parce que même si vous dites alors Android a des parties de Unix en soi, donc ça veut dire qu'Android, un système d'exploitation créé par Google, bon, qui n'est pas une entreprise à but non lucratif, hein, on le sait, utilise donc est fondé en partie sur un système d'exploitation qui, lui, provenait vraiment d'une origine hacker, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on a l'impression que ces gens construisent, bidouillent, expérimentent, partage, et puis qu'il y a un moment, oups, c'est aspiré, et que ça devient, ça devient un élément d'un système qui est un système marchand.
Après, les hackers sont pas forcément des anticapitalistes.
Mais il y a deux exemples. Celui que tu avais donné la dernière fois, c'était peut-être celui d'Apple, en fait.
Oui, mais sur ce côté, la récupération inévitable. Après, je sais pas, Linux, c'est pas non plus...
Ou l'imprimante 3D, la MakerBot, qui est à la base une invention.
Moi, je pense que ça a quand même contribué à rééquilibrer le débat, on va dire.
C'est-à-dire ?
Faire en sorte justement que les gros intérêts soient pas les seuls représentés, et qu'il y ait quand même des alternatives gratuites, mine de rien. Linux, ça marche, c'est gratuit.
Firefox reste gratuit, quoi qu'on
dise. Et aujourd'hui, ils sont où ? Ils font quoi, les hackers, aujourd'hui ? Ils sont en train d'inventer quoi ? Est-ce que les hackerspace, par exemple, et tout ce travail autour de glissement vers le travail du logiciel, vers le travail plus du matériel, disons, est-ce que ça, c'est le lieu où les hackers sont en train de travailler aujourd'hui ?
Disons que c'est la suite logique. On a cru que le numérique était opposé au monde physique. On s'aperçoit que non, en fait, il y a un dépassement. Les hackers reviennent au monde physique, donc avec le développement des hackerspace, et que leur esprit de créativité, de détournement, ils l'appliquent maintenant effectivement au monde matériel, ce qu'on appelle le hardware.
Et qu'est-ce qu'ils font alors dans ces hackerspace ? C'est toujours assez mystérieux d'imaginer qu'est-ce qu'ils fabriquent dans ces hackerspace, Ophélie Anour ?
Alors, quand vous arrivez dans un hackerspace, ça dépend du pays où vous êtes, mais en général, vous avez toujours des grandes tables avec des gens assis autour avec leurs ordinateurs personnels. Vous avez souvent, même toujours, un rétroprojecteur parce qu'il y a des petites réunions le soir où ils viennent montrer le projet sur lequel ils travaillent. Voilà, ça peut être un projet mobile, ça peut être un projet de code. Donc voilà, ils présentent le travail à d'autres hackers, ils échangent des idées, des critiques.
Et ils font quoi? C'est quoi leur travail?
Après, je vais peut-être me faire tracher par mes hackers, mais ils ne sortent pas forcément des choses très concrètes. Je voulais faire lister en fait tout ce qui avait été créé dans les hackerspaces. C'est plus une démarche en fait, l'entretien d'une démarche critique, toujours ce réflexe d'ouvrir le capot pour réfléchir.
Et le capot de quoi?
Par exemple, le capot d'une imprimante 3D pour voir si on peut l'améliorer.
Donc une imprimante 3D, c'est une imprimante qui n'imprime pas des feuilles en 2D, mais qui fabrique des objets. Voilà. Et donc voilà, donc on ouvre le capot, on essaie de voir comment améliorer ça.
Après, il peut en sortir aussi des actions plus politiques, comme au Chaos Computer Club en Allemagne. Par exemple, on va démontrer que le dernier projet de passeport biométrique n'est pas fiable, empreinte digitale du ministre qui veut la mettre en place à l'appui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est effectivement, comme disait Ophélia, ça dépend vraiment des. Enfin, chaque lieu a sa couleur. C'est.
Il y a aussi. Enfin, ils font des ateliers dans certains hackerspaces. Voilà, ils font des ateliers, ils peuvent.
Donc, partage de compétences.
Partage de compétences, oui. Même. Enfin, ils s'ouvrent beaucoup vers des gens qui sont totalement novices. Par exemple, au Metalab de Vienne. Voilà, ils font beaucoup de communication depuis quelques temps pour ouvrir vraiment le hackerspace. Enfin, des gens qui ne sont pas hackers.
Alors, on va aborder une troisième question qui est celle de la politique, évidemment, du rapport à la politique. Donc, évidemment, il n'est pas complètement indépendant de ça, vous l'aviez dit, vous venez de le dire, Sabine Blanc, avec la question du Chaos Computer Club là, de Berlin, où on traficote, mais on traficote aussi sur des questions politiques. Mais tout de suite, la lecture de la semaine. La lecture de la semaine, elle provient de l'édition numérique du New Yorker. On la doit à Gary Marcus, qui est professeur de psychologie à NYU, New York University. Et elle s'intitule « Pourquoi fabriquer des robots est horriblement difficile ?» Les robots, tout à coup, font la une de l'actualité. Mitsubishi vient d'annoncer avoir construit un robot spécialement créé pour nettoyer le réacteur nucléaire de Fukushima. La NASA travaille sur un homme à tout faire automatique adéquat aux travaux dans l'espace. Romo, de Kickstarter, prévu pour sortir en mars 2013, est un tout petit robot qui utilise un iPhone comme un cerveau électronique. Alors c'est quasiment la première fois que quelqu'un se lance sur le marché de la robotique de consommation courante, dit Gary Marcus. Il y a eu l'exemple de Nolan Bushnell, le fondateur d'Atari, qui s'y est essayé aux environs des années 80 avec une société du nom de Androbot. Il a investi au final 33 millions de dollars de sa propre poche, qu'il a perdu complètement. 30 ans plus tard, donc, reprend Marcus, les ordinateurs vont beaucoup plus vite, mais les robots semblent toujours aussi primitifs. Si vous allez dans un grand magasin, les seuls robots que vous risquez de trouver sont des jouets pour enfants ou des aspirateurs autopropulsés, hein, pas des aides multitâches suffisamment adaptables pour changer des couches, tenir conversation ou préparer un dîner. Les deux plus grands défis auxquels se confronte la création de tels robots sont et ont toujours été, dit l'auteur, le hardware et le software, c'est-à-dire le matériel et le logiciel. Du côté hardware, il existe aujourd'hui beaucoup de nouveaux robots qui peuvent faire des choses incroyablement cool. Un robot court plus vite qu'un homme, un autre danse le Gangnam Style, un autre PR2, plie les serviettes et va vous chercher une bière dans le frigo. Le problème, c'est que pour le moment, chaque nouveau robot donne l'impression de prouver un concept. Ceux qui sont rapides et puissants physiquement comme AlphaDog ou Petman sont encore dépendants de vérins hydrauliques actionnés par des pompes et des moteurs à essence. Ils fonctionnent bien dans un laboratoire, mais vous n'en voudriez pas pour s'ébattre dans votre maison. Les autres, comme Baxter et PR2, sont capables de mouvements tout à fait sophistiqués, mais encore trop lents pour être utiles à domicile. PR2, par exemple, met 5 minutes pour attraper votre bière et vous la rapporter. Les processeurs d'ordinateurs continuent d'aller de plus en plus vite, doublant presque tous les 18 mois, selon la célèbre loi de Moore, et la mémoire coûte de moins en moins cher. Mais les moteurs et les actionneurs qui font bouger les robots ne s'améliorent pas aussi vite. Et il en va de même pour les technologies reliées à l'énergie, problème clé, hein, qui progressent vite, mais pas au rythme de la loi de Moore. Enrico Guizzo, qui est chargé de la robotique à l'IEEE Spectrum, explique. Beaucoup de gens ont travaillé pendant des décennies sur des robots humanoïdes, mais les moteurs électriques nécessaires pour diriger les bras et les jambes du robot sont trop gros, trop lourds et trop lents. Les robots humanoïdes les plus avancés aujourd'hui sont encore d'énormes tas de métal, trop peu sûrs pour être mis au milieu de gens. Et comme Rodney Books, le fondateur de Rethink Robotics, l'expliquait à l'auteur, tout le problème, c'est la différence entre l'informatique et la physique. Si vous voulez utiliser un tas de sable bleu pour représenter un 0 et un tas de sable rouge pour représenter un 1, vous pouvez diminuer de moitié chaque tas, vous aurez la même information. Et vous pouvez encore avoir la même information avec un seul grain de sable de chaque tas. C'est ce qui s'est passé avec les ordinateurs, c'est pourquoi ils sont aujourd'hui beaucoup plus petits. Mais les lois de la masse et du mouvement ne sont pas les mêmes que les lois de l'information. Si vous bougez un bras avec la moitié de la force, vous n'obtenez que la moitié moitié du résultat. Ce qui signifie, par exemple, que vous ne pouvez pas miniaturiser un bras de robot et vous attendre à ce qu'il soulève des objets aussi lourds qu'avant. Je passe un peu sur cet article, mais pour finir par l'idée que donne Gary Marcus, chaque jour ou presque, d'importantes avancées d'ordre incrémental sont réalisées en robotique et parfois même de vraies percées avec la Kinect Sensor 3D de Microsoft, qui rend possible la vision 3D en intérieur pour les jeux vidéo. Et une des plus importantes entreprises de robotique, Willy Garage, a récemment mis en open source la plus grande partie de ses logiciels, ce qui signifie, et là on retrouve la question de nos jours, que les jeunes hackers partout dans le monde n'auront pas à inventer la roue à chaque fois qu'ils créent un nouveau robot. Mais avant que nous soyons assistés au quotidien par des robots, la route est encore longue et semée d'embûches. Vous retrouverez cette lecture lundi sur Internet Actu. Are you a message worth replaying? Or just an uninvited dream? Robot Soul, âme de robot du DJ et producteur français Benjamin Boguet, plus connu sous son pseudonyme Cosmo Vitelli. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, magazine des cultures numériques où nous parlons aujourd'hui de l'histoire des hackers avec Sabine Blanc et Ophélia Nour, qui sont toutes les deux les auteurs d'un livre numérique Hacker Bâtisseur depuis 1959. Alors il nous reste peu de temps malheureusement pour une question qui est en même temps celle qu'on a le plus souvent traitée, qui est la question du rapport des hackers à la politique. Mais puisque vous êtes historienne des hackers maintenant, on a bien compris au départ que l'éthique hacker n'est pas une éthique politique. Pas immédiatement politique, disons.
Ça dépend de ce qu'on entend par politique.
Oui, alors dans un sens très très large. Mais qui
Au sens étymologique du terme, j'ai envie de dire oui. À partir du moment où ils s'intéressent à la technique, où ils se veulent des chiens de garde finalement, de la technique, où la technique innerve toute notre société, forcément c'est politique. Et ça allait dès les années 70.
Donc en fait, vous répondez déjà à ma question qui consistait à vous demander quand se fait le tournant vers la politique. Mais quand même, si je veux dire, entre des gens qui bidouillent des ordinateurs, etc., et des gens aujourd'hui qui interviennent très directement dans, alors à la fois sur des terrains de guerre typiquement télécomics, ou les Anonymous dans des débats qui sont des débats très très politiques, enfin l'ACTA par exemple, les lois qui ont été rejetées finalement, PIPA et SOPA aux États-Unis. Ou alors carrément certains qui se retrouvent dans des partis politiques, comme le Parti Pirate. Enfin, il y a quand même un glissement assez manifeste, il me semble, non ?
Oui, mais qui est logique, en fait. Parce que, donc, une des valeurs clés d'éthique hacker, c'est la libre circulation de l'information, des données. À partir du moment où Internet croît, forcément, il y a des velléités de censure, de contrôle. Il y a une législation qui se met en place. Donc forcément, les hackers sont contraints, quelque part, de se politiser pour défendre une valeur clé de leur éthique, tout simplement.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait que la politique entre dans Internet. Quand je dis la politique, c'est les gouvernements, etc., entrent dans Internet, qui fait que, paradoxalement, pas paradoxalement, mais en réaction, les hackers eux-mêmes font de la politique.
Tout à fait.
Ophélia Nour ?
Ils vont le faire différemment. Il y en a qui vont aller à la Quadrature du Net ou à l'EFF, et puis d'autres qui vont plus faire l'ULSEC ou Anonymous. C'est deux manières d'agir qui sont différentes.
Mais justement, c'est la question que je me posais. C'est quoi faire de la politique à la hacker ?
J'ai un exemple. Quand je suis partie en reportage en Espagne, au moment des... Justement, la première révolution, on va dire, espagnole du 15 mai, les hackers étaient là dès les premières secondes, sur la Plaza del Sol à Madrid. Ils étaient déjà là. Voilà, ils faisaient partie des gens.
Ils étaient là en tant que hackers ou ils étaient là
Les deux, parce que en Espagne, il y a aussi cette particularité-là où les hackerspaces sont souvent dans des squats où ils sont dans, par exemple, les mêmes locaux que d'autres associations et d'autres activistes. Et donc, ils sont beaucoup plus qu'ici, j'ai l'impression. Ils ont déjà l'habitude de travailler ensemble et de se rendre des services. Et au moment du KinCM, c'est eux qui ont construit toute l'infrastructure de blog, toutes les plateformes, Take Your Square, etc. C'est eux qui maintiennent tout, qui s'occupe voilà, des blogs, des adresses, des mailing lists. Donc ça, voilà, ça c'est, pour moi, c'est déjà agir politiquement.
Sabine Blanc.
Après, j'ai l'impression qu'il faut que, à partir du moment où dans un pays, il y a un mouvement fort, comme on l'a vu Occupy Wall Street, peut-être en ce moment, ça se passe aussi à Notre-Dame-des-Landes. On voit des hackers de Télécomics qui viennent en renfort.
Et d'ailleurs, ils ont hacké Autoroute FM, qui est devenue Klaxon FM. Non, mais c'est vrai. Qui est devenue la radio de Notre-Dame-des-Landes. Ouais.
À partir du moment où il y a une convergence en fait, entre les deux mouvements, on est, l'idée de, quand même d'aller à l'encontre d'une autorité qui impose des choses. On l'a vu Occupy Wall Street, bah, encore Notre-Dame-des-Landes, pareil.
Mais je trouve que les hackers étaient quand même beaucoup plus présents. Enfin, je trouve qu'on les voit... Enfin, leur rôle est beaucoup plus important, par exemple, en Espagne. Et beaucoup plus évident pour moi que sur Occupy Wall Street. Mais après, ils sont pas... ils vont pas forcément le revendiquer. Enfin, dire « Eh oh, c'est nous ». Enfin, voilà, il faut aller... Enfin, faut quand même aller les chercher. Après, les gens en local le savent. Enfin,
après, ça dépend des pays aussi. Enfin, l'Allemagne, par exemple, ils sont, pour des raisons historiques, beaucoup sur la défense des libertés individuelles, privacy. Beaucoup sur les questions de sécurité, parce que historiquement, le Chaos Computer Club travaille sur des questions de sécurité, c'est dans la crème de la crème. Donc, dès les années 80, ils s'étaient amusés à démontrer que l'équivalent allemand du Minitel était juste percé comme du gruyère ou de l'emmental. Je ne sais plus.
Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que bon, on arrive au terme de l'émission là, et que finalement, la question de l'illégalité, on l'a pas posée en tant que telle. C'est-à-dire que vous défendez, est-ce que vous défendez l'idée ou accréditez l'idée qu'en gros, à part des cas extrêmement particuliers, le hacking devient illégal simplement par accident, mais qu'en aucun cas, il est dans la nature du hacking d'être un acte illégal.
Non, il est neutre. En fait, il se définit en fonction des... Il y a la fin qu'il veut obtenir. Et si les moyens sont éventuellement, à un moment donné, illégaux, par exemple, si pour démontrer qu'il y a une faille de sécurité, il faut effectivement enfreindre le code de la loi, ils le font. Après, si c'est dans un but bon... Ils ne se poseront pas la question.
Mais pourtant, l'histoire du hacking, enfin, elle est remplie. Elle est remplie de procès, elle est remplie d'actes qui sont spectaculairement illégaux et très consciemment illégaux. Enfin, c'est aussi ça, l'histoire du hacking, non?
Oui, tout à fait. C'est des jeunes gens qui entrent dans des trous.
Sur cette histoire-là, quels sont, selon vous, les actes les plus spectaculaires, Ophélie Anour?
Récemment, moi, j'avais trouvé que rebrancher l'Internet en Égypte, c'était quand même un acte spectaculaire. Enfin, sur ces deux dernières années où les hackers ont commencé à beaucoup apparaître dans les médias, je trouve que c'est peut-être l'acte le plus...
Et donc, c'était qui? C'était Télécomics?
C'était Télécomics, ouais.
Et c'est qui, par exemple, Télécomics? Alors, prenons l'exemple de Télécomics. C'est qui, c'est quoi Télécomics?
Justement, c'est une masse informe. Une méduse. Contrairement, par exemple, à la quadrature du net ou à l'EFF, qui est l'Electronic Frontier Foundation américaine, c'est un groupe informel. Donc, l'engagement politique des hackers, soit il va se faire dans des groupes qui tiennent plus du lobbying, en fait, ou de la politique, carrément, comme le Parti Pirate, ou alors il va se faire dans un groupe comme Télécomics. Mais ils se diront apolitiques, ceci dit.
Il y a des gens à qui on peut parler, y a des...
Oui, tout à fait. On peut aller sur leur IRC, donc c'est des salons de discussion. Vous présentez gentiment. Il y a même des salons réservés pour les journalistes. Et pour revenir sur ce que disait Ophélia, le côté informel, c'est ce qui rend aussi pour les médias difficile d'en parler. Parce que les médias aiment bien des choses bien carrées, bien définies. Et là, on se trouve avec quelque chose un peu comme un poisson qui échappe...
Et c'est vrai, oui, que par rapport au traitement dans les médias, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des actions d'Anonymous, par exemple, là, les médias ont été mauvais, parce que il n'y a pas de tête, c'est complètement informel, ils ne savent pas par quelle boule prendre.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir essayé d'éclairer cette question compliquée qui est celle des hackers. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Hackers bâtisseurs depuis 1959, dont vous nous avez expliqué donc que 1959 était la date d'apparition du mot hacker. Alors la semaine prochaine, dans Place de la Toile, première émission de l'année 2013, on recevra le philosophe Jean-Michel Besnier pour une critique en règle de l'évolution des technologies sous l'angle de la simplification, ce que vous entendez, c'est le bruit d'un appareil photo très, très ancien, en fait, hein, très, faut dire, très classique. Le titre de l'émission, ce sera Vers un homme simplifié, donc samedi prochain, 18h10, dans Place de la Toile. D'ici là, bonne fête, bonne suite dans les festivités et bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance de se reposer un peu. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique, c'était Ludovic Auger, réalisation, Olivier Guérin, tout de suite, ligne de fuite, la chronique d'Edoui Planel. Bonne soirée, bonne semaine.